Merci, Monsieur Basile. Donc, je suis très heureux de ce soir pouvoir passer ce moment avec vous. La technologie, ça a quand même du bon. Et voilà, je suis heureux d'être avec vous. Et je sais très bien que ce qui unit des personnes, ce n'est pas d'être dans un même bâtiment, mais c'est d'être dans un même esprit. Et je me suis réjoui de passer ce temps à prier avec vous. Et j'ai entendu dans plusieurs prières ce désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Et je crois que ce soir, c'est notre désir à tous. En tout cas, c'est ce qui doit marquer la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il veut aller plus loin avec le Seigneur et pour le Seigneur. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire une première lecture dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, et on va lire quelques versets. Ces versets, vous les connaissez bien. Ça concerne les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Mais on va partir de ce texte pour aller plus loin. Donc, Épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Donc dans ce texte, il nous est parlé des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. On voit vraiment ce qui caractérise un chrétien qui est charnel et ce qui caractérise un chrétien qui est spirituel. Pour l'homme spirituel, il y a un fruit. Pour l'homme charnel, il y a toutes sortes d'œuvres qui sont mauvaises. Et au verset 25, l'apôtre Paul conclut en disant « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Donc on voit que dans notre rapport à l'esprit, Paul dissocie deux choses. Il dit que l'on peut vivre par l'esprit, mais il dit aussi que l'on peut marcher selon l'esprit. Et on voit qu'il y a une différence. Ce n'est pas parce que je vis par l'esprit, ou en d'autres mots que je suis né de nouveau, que j'ai reçu cette vie du Saint-Esprit, que ça veut dire que je vais marcher en comptant sur le Saint-Esprit. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on lit les épîtres de Paul aux différentes églises, on voit très bien que l'un des gros problèmes des premières églises, c'était les chrétiens charnels. Il suffit de lire la première épître de Paul à Corinthe, à l'église de Corinthe, et on voit que tous les soucis, en gros la majorité, c'est parce qu'ils étaient charnels. Si par exemple on va dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 1er, il va dire « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc on voit que l'apôtre Paul leur dit « Mais vous êtes des enfants. » Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, ceux qui ont écrit l'épître aux Hébreux, ils vont dire « Mais vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Vous avez besoin de lait. » Paul, dans toujours l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, il dit « Mais lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait mourir ce qui était de l'enfant. » Et ça, il le dit dans 1 Corinthiens 13, en plein milieu de l'enseignement sur les dons spirituels, parce qu'il est en train de leur enseigner que l'homme qui est spirituel, c'est celui qui a l'amour. Et que s'ils ne sont pas spirituels, et même s'ils ont tous les dons, la manière dont ils utilisent les dons spirituels prouve que ce sont des enfants. Parce que celui qui est vraiment spirituel, c'est celui qui a l'amour. Et donc, on voit que souvent, le trouble qu'il y avait dans les églises était lié, bien souvent, par ceux qui étaient charnels. Et souvent, c'est vrai que dans l'église, des fois, on fait la dissociation. On dit, bah, celui-là, il est charnel. Celui-là, il est spirituel. Bon, on voit que le charnel, c'est le petit enfant en Christ. Et c'est vrai que quand quelqu'un se convertit, c'est normal qu'il soit charnel. Parce qu'on est de nouveau, et c'est normal qu'un enfant soit un enfant. Mais après, c'est aussi normal que petit à petit, ils grandissent et que l'enfant devienne adulte. Et je crois que notre désir ce soir, ce n'est pas simplement d'être des enfants de Dieu, mais c'est d'être des hommes et des femmes de Dieu. Parce que ce n'est pas la même chose. Je peux être vivant pour Christ, vivre par l'Esprit, mais ce que Dieu veut pour moi, c'est que je devienne spirituel, c'est que je marche selon l'Esprit. Parce que oui, quand on commence à être chrétien, qu'on soit charnel, c'est normal, puisqu'on est des petits-enfants en Christ, mais on ne peut pas rester charnel. Parce que ceux qui restent charnels, ceux qui, le temps passant, s'affectionnent aux choses de la chair, aiment cet état charnel, finiront par rétrograder. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Un chrétien qui refuse de devenir spirituel et qui volontairement reste charnel se met en danger et tôt ou tard, ça finira mal. Donc, notre but, c'est de devenir spirituel. On est tous d'accord avec ça, je pense. Oui. En tout cas, un enfant de Dieu a ce désir de devenir spirituel. Et donc, il faut apprendre à marcher selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit, c'est une chose. La vie de l'Esprit, on le reçoit par pure grâce. C'est la nouvelle naissance. On le reçoit par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. On s'est repenti de nos péchés. On a cru en son pardon. Le Seigneur a purifié nos cœurs. Et plus que de le purifier, il est venu par son Esprit habiter dans nos cœurs et nous sommes devenus vivants. Nous sommes nés de l'Esprit. Ça, c'est une chose. Et lorsque j'ai cette communion avec Dieu, que le Saint-Esprit vient habiter dans mon cœur, je suis sauvé, je suis chrétien. Mais vivre, c'est une chose. Marcher, c'en est une autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez tous les animaux quasiment, dès qu'ils sortent du ventre ou de l'œuf, ils savent marcher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il leur faut quelques minutes et puis pouf, ils se mettent à marcher. Mais l'homme, il doit apprendre à marcher. Nous, il nous faut apprendre. Vivre, ça ne demande aucun effort. Vivre, on a reçu la vie. Mais marcher, ça demande un apprentissage. Et autant je peux avoir reçu la vie du Seigneur, autant je dois apprendre à marcher selon l'Esprit. Marcher, ça s'apprend. Et dans la Bible, on voit un exemple d'un homme qui a mal commencé, ou en tout cas qui a commencé, on pourrait dire, qui représente le chrétien charnel et qui va bien finir. Et cet homme, c'est Jacob. Dans l'Ancien Testament, on voit un homme qui ne va pas très bien commencer, mais qui va bien finir. On voit Jacob. Jacob, quand on regarde le début de sa vie, ce n'est pas très brillant. Déjà, dès la naissance, il essaye de choper le talon de son frère. Il essaye de sortir le premier. Bon, c'est bizarre comme naissance. Plus tard, il va voler le droit d'aînesse. Bon, c'est pas top. Ensuite, quand il sera parti, parce qu'en ayant volé le droit d'aînesse, il va devoir partir face à la colère de son frère. Puis il va se retrouver chez son beau-père, et puis son beau-père, il va l'arnaquer une, deux, trois, plusieurs fois. Donc on voit que Jacob, c'est vraiment quelqu'un qui va, comment dire, qui représente le chrétien charnel. D'ailleurs, son nom, Jacob, ça veut dire le supplanteur, en gros celui qui trahit. Et d'ailleurs, c'était tellement ancré en lui que c'était un peu son nom, c'était son identité. Bon. Mais malgré cela, quand on regarde sa vie, on voit qu'il va quand même avoir une relation avec Dieu. Parce qu'on va voir que quand il va fuir de là où il était, il va quand même faire une expérience à Bethel, où il va avoir une vision avec Dieu. Mais on le verra plus tard. Il avait quand même une relation avec Dieu. Mais cet homme qui a mal commencé, à la fin de sa vie, on voit que ce n'est plus du tout le même homme. On voit qu'il va bénir Pharaon. Il va finir en bénissant. On voit qu'il va prophétiser sur ses enfants. Ça, c'est quelque chose. Il va annoncer d'avance ce qui va se passer pour ses enfants et ses descendants. Il va bénir ses petits-fils. Quand à un moment, Joseph va amener ses deux enfants, il va avoir le discernement de voir lequel aura la prééminence sur l'autre, etc. Donc, on voit à la fin un homme qui va finir d'une manière excellente. Il va bénir, il va prophétiser, il va discerner les choses. Ça va être un homme, c'est l'image du chrétien spirituel. Et ça, c'est rassurant pour nous. Parce que même si on peut commencer charnel, et ce qui est normal au final, dans un sens, on l'a vu, que la naissance, ça commence par une naissance, on voit que cet homme, malgré tous ses défauts, malgré le début qui n'est pas brillant, il va transformer Jacob en Israël. Le charnel va devenir spirituel. Et ça, c'est ce que Dieu veut dans nos vies. Jacob est devenu Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que nous aussi, notre but, c'est de progresser. Alors, on va le lire. On va lire dans Genèse, au chapitre 32. On va aller dans Genèse, au chapitre 32. Et avant, je vais vous lire un autre verset. Ne le cherchez pas, celui-là. Mais c'est dans Jacques, au chapitre 1er, où on va déjà avoir une première pensée. Voici ce que Jacques va dire. Et il s'adresse à l'Église, puisqu'il commence en disant au verset 2, « Mes frères ». Donc Jacques, chapitre 1er, verset 2. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc là, dans ce texte, on voit qu'il nous est dit qu'on peut devenir parfait et accompli, un chrétien accompli, mais pour cela, il faut passer par des épreuves. Et ce n'est pas écrit une épreuve, c'est écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». Il peut y avoir toutes sortes de types d'épreuves qui vont servir à ce qu'on devienne parfait. Et c'est vrai que Jacob est devenu Israël, mais le moment précis où il est devenu Israël, ça a été lors d'une épreuve pour lui. Et c'est ce qu'on va lire dans Genèse au chapitre 32. Alors, on ne va pas tout lire. Donc, c'est Jacob qui choisit de... Dieu va lui parler et il va partir de chez son beau-père, Laban, pour retourner auprès d'Isaac. Et... quand il va partir, il va envoyer des messagers pour prévenir son frère, qu'il n'a pas vu depuis un bon moment, lui dire qu'il revient. Bon, sauf que ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait pensé. Donc, on va lire par exemple, donc chapitre 32, verset 9. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, « Retourne dans ton pays, et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit tout ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, etc. On ne va pas lire tout, mais au verset 22, il est écrit « Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche et au tendon. Amen. Donc on voit l'épreuve par laquelle Jacob va passer. On voit déjà qu'il est béni, parce que il va dire qu'il avait franchi le torrent juste avec un bâton, et là il revient avec un clan, une famille. On voit, si on lit un peu plus tôt, quand il conteste avec son beau-père, je l'ai noté au verset, chapitre 31, verset 42, il va dire « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Donc on voit que Dieu était présent dans la vie de Jacob. Dieu était présent. Et pourtant, à ce moment-là, alors qu'il obéit à Dieu et qu'il va rentrer là où Dieu lui demande d'aller, il va y avoir une épreuve. On voit une chose, c'est que Jacob, donc on l'a lu tout à l'heure dans le verset 9 et 10, Jacob va dire que lorsqu'il va venir, il va avoir une seule chose en main. C'est quoi? C'est son bâton. Jacob, il avait une chose quand il est parti, de là où il habitait, et une seule chose. Son bâton en main. Et après, il va repartir avec sa famille. Dans l'Ancien Testament, bien souvent, le bâton représente l'œuvre de Jésus à la croix. On le voit lorsque Moïse va élever le bâton, on le voit quand il y a le bâton de Aaron qui va refleurir, qui représente la mort et la résurrection. Et on le voit pour Jacob, le bâton, c'est toujours l'œuvre de la croix. Et c'est vrai que le chrétien, c'est celui qui a saisi que Jésus-Christ était mort pour lui à la croix. Il s'est repenti de ses péchés et il a la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Et donc, Jacob, il avait ce bâton avec lui. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'œuvre de Jésus avec nous. Et on voit que Jacob a été béni. Il a vraiment été béni, puisque Dieu a multiplié. Et puis, on voit que son beau-père a essayé de s'enrichir lui. Puis, au final, c'est Dieu qui a enrichi Jacob. Bon, ça, c'est l'image vraiment du chrétien. Mais on voit que malgré la bénédiction, Jacob, il y avait encore beaucoup de choses qui avaient besoin de changer. Et pour le perfectionner, que va faire Dieu? Il va envoyer une grosse épreuve. Ésaü, son frère, va venir à sa rencontre et c'est dit qu'il vient avec 400 hommes. Et on comprend bien que lorsque Ésaü va venir à la rencontre de Jacob, c'est pas un comité d'accueil. Enfin, aussi, c'est un comité d'accueil, mais dans le mauvais sens. Là, Ésaü vient pour faire la guerre à Jacob. Et on voit que pour Jacob, c'est vraiment une grosse épreuve. Il va être saisi d'angoisse. J'ai regardé quand il nous est dit que Jacob va descendre en Égypte avec tout son clan. C'est écrit qu'ils vont descendre à 66 hommes sans les enfants et les femmes. Donc, en gros, ça faisait 66 combattants. Bon. Et de l'autre côté, Ésaü, il vient avec 400 hommes pour l'accueillir. Donc, 66 fois 400 contre 400, on comprend bien qu'il avait absolument aucune chance de gagner. Donc, à un moment, Jacob se retrouve face à quelque chose qui est bien plus fort que lui, quelque chose qu'il ne peut pas résoudre par lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En lisant le chapitre, on voit qu'il divise son clan en deux et qu'en gros, il magouille encore un petit peu. Bon. Mais on voit que cette épreuve, elle va amener quelque chose. Au verset 24, il nous est dit que Jacob va demeurer seul. Et il y a des moments dans notre vie où Dieu va provoquer des situations où on va être tout seul. On ne pourra pas s'appuyer sur l'un ou sur l'autre. On va demeurer seul. Il y a des moments où dans notre vie, Dieu fait en sorte qu'on a des combats à lutter où on est seul. On est seul. Ça, on le voit plusieurs fois dans la Bible. En fait, ce que Dieu veut pour Jacob, c'est qu'il y ait un face-à-face avec lui. D'ailleurs, Jacob va appeler le lieu Péniel, parce qu'il aura rencontré Dieu. Et ça, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, dans Osée au chapitre 2, verset 14, Dieu parle à Israël et il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer au désert, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, Dieu nous attire au désert. Le désert, c'est aussi la solitude. Vous savez, dans un désert, il n'y a pas grand monde. Lorsque Jésus voulait être seul, il se retirait dans des lieux déserts. Dieu, des fois, permet des épreuves où on se retrouve tout seul. Tout seul, mais avec lui. Ça arrive. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Jacob va lutter avec un homme. Et on voit que ce combat va être assez rude, assez terrible. Et à la fin de ce combat, parce que Jacob ne lâche pas, il va être frappé à la hanche. Et même quand il va être frappé à la hanche, il ne va pas laisser partir cet homme, mais il va le saisir. Hein, c'est ce qu'on va voir verset 26. Il dit, l'homme qui se bat, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Vous voyez ? Il y a des moments où dans notre vie, il y a des combats. Et il y a ce qu'on peut, enfin, on le voit dans d'autres textes, mais il y a des moments où l'épreuve produit un brisement. Là, Jacob va être frappé à la hanche. La hanche ou les reins, chez les Juifs, c'est vraiment le symbole de la force. Quand c'est écrit qu'il faut ceindre ses reins, c'est vraiment les reins, c'était l'image de la force. Et il va être frappé dans sa force. Et on va voir que ce coup, il va être tellement dur qu'à un moment, après ce combat, Jacob va boiter toute sa vie. Il va y avoir un combat, une épreuve qui va le briser ou qui va briser sa force. Et ça, ça arrive dans des épreuves. Vous savez, il y a les petites épreuves et il y a les grosses épreuves. Il y a des épreuves où ça chauffe, puis il y a des épreuves où ça chauffe tellement qu'on peut dire que c'est plus qu'une simple épreuve, c'est un vrai brisement. Mais malgré le fait qu'il va être atteint dans sa force, malgré le fait qu'il va être brisé, il va faire une chose. Il va continuer à s'accrocher. Et à un moment, on voit quelque chose d'assez paradoxal, c'est que Jacob, il est à terre, atteint, touché dans sa hanche, et pourtant, l'homme ne va pas partir. Il ne peut pas partir, parce que Jacob s'accroche. Et ça, pour nous, c'est l'image que oui, il peut y avoir des épreuves qui sont terribles, il peut y avoir des épreuves qui nous brisent, mais on peut toujours rester attaché, cramponné au Seigneur. Notre foi, elle peut toujours rester attachée à Dieu, même quand c'est terrible, même quand on est à terre, même quand on est brisé, un homme peut toujours rester attaché à Dieu. Et à la fin de ce combat, on voit que Jacob va sortir, et en fait, c'est quand il va être brisé qu'il va être victorieux. Vous voyez, ça, on l'a lu. C'est qu'à un moment, il a lutté et il a été vainqueur. Ça, c'est on le lit au verset 28. Et c'est à ce moment-là que son nom va changer et que l'ange va dire, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il y a un changement. À partir de ce moment où il est brisé, il n'est plus Jacob, il devient Israël. Et lorsqu'il va être vainqueur, on voit qu'il va boiter. Dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 21, lorsqu'il est parlé des héros de la foi, il nous est parlé de Jacob. Et c'est écrit au chapitre 11 et au verset 21, donc, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il a passé le Jourdain avec son bâton, enfin le fleuve avec son bâton, il le repasse appuyé sur son bâton. Parce que quelqu'un qui boite, il a besoin d'un bâton pour s'appuyer. Et c'est là la grande leçon et le but de l'épreuve, de ces épreuves-là. C'est que c'est une chose d'avoir saisi l'œuvre de Jésus à la croix, de l'avoir avec soi, on va dire, de la garder, mais c'en est une autre que de s'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que je peux avoir saisi l'œuvre de Jésus à la croix et compter sur mes forces à moi. et agir en comptant sur mon intelligence, ma force, mes amis, mes richesses, tout ce que vous voulez, et être charnel, s'appuyer sur la chair, mais c'en est une autre que de s'appuyer dans tout ce que je fais et toute ma vie sur l'œuvre de Jésus à la croix. Ce n'est pas la même chose. Il y a des chrétiens, ils ont saisi la croix, mais c'est eux qui vivent. Ils ne peuvent pas dire « j'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi ». C'est eux qui vivent. Et pourtant, ils ont bien saisi le pardon des péchés, la grâce de Dieu, il n'y a pas de souci avec ça. Et pourtant, ils sont bien vivants. Mais c'est une autre chose que de s'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et Dieu permet des épreuves qui nous brisent, et à la sortie de ces épreuves, oui, c'est vrai qu'on boite, mais par contre, on s'appuie sur le bâton. Le but de l'épreuve, c'est de nous apprendre à non plus compter sur nos forces, mais compter sur l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que ce que Jésus a fait à la croix est suffisant pour vivre. Et ça, on le voit dans toute la Bible. C'est vrai que Dieu attire au désert, mais si on va dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8 et au verset 5, il est écrit « Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» C'est vrai que Dieu, des fois, nous amène dans le désert pour avoir un face-à-face avec lui, mais le but, c'est qu'on ressorte du désert, appuyé sur lui. Un Chronique, chapitre 16, verset 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Psaume 84, verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. » etc. Allez, un autre texte. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. » Vous connaissez la suite, il est comme un misérable dans le désert. Mais au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Vous voyez, la confiance en Dieu. Il y a des situations où des fois on agit nous-mêmes et on ne compte pas sur l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pour cela que Dieu, des fois, dans son amour, permet des épreuves pour qu'on ne puisse plus avancer si ce n'est en comptant sur l'œuvre qu'il a fait pour nous à la croix. Combien il y a de chrétiens, par exemple, qui luttent avec le péché par eux-mêmes, par leur propre force? Ils essayent de résister, de résister, de résister au péché, puis badaboum, une chute. Puis ils essayent de résister, de résister, de résister à un autre péché, puis badaboum, une chute. Combien de chrétiens luttent avec la colère? Vous savez, la colère, on l'a lu dans les œuvres de la chair. Vous savez combien la colère, elle est réprouvée par Dieu. Quand on voit Jacob, justement, qui va bénir ses enfants à la fin, il y en a deux, il ne va pas les bénir. Il va les maudire, enfin, ils vont être maudits. Maudit soit la colère de Lévi et Siméon, parce qu'elle est violente. Combien de chrétiens luttent avec ça, avec la colère? Combien de chrétiens luttent avec certains traits de leur caractère, etc.? Mais ils luttent par leur propre force. Alors qu'en réalité, tout ce dont on a besoin, Jésus l'a accompli à la croix. Combien luttent avec le péché? Mais le péché a été vaincu à la croix. Et ce que Dieu nous demande, c'est non pas de lutter avec nos forces contre tel péché ou tel autre péché. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire dans le combat que Jésus a mené contre le péché à la croix et qu'il a remporté. Et lorsqu'on croit que Jésus a remporté la victoire sur le péché, eh bien, on la voit s'accomplir. Mais il y a des chrétiens qui sont charnels et qui sont toujours esclaves du péché parce qu'en fait, ils essayent par leur propre force de vaincre un péché qui a déjà été vaincu par Jésus, parce qu'ils essayent de marcher par leur force, alors que s'ils s'appuyaient sur l'œuvre de Jésus à la croix, ils seraient victorieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, certains chrétiens aiment Jésus, veulent suivre Jésus, mais ils essayent de le suivre en comptant selon leur force. Et ça ne marche pas. Mais à partir du moment où on est brisé, on a compris qu'on n'y arrivera jamais, on a compris qu'on ne peut pas vaincre, mais que Jésus a vaincu, alors on s'appuie sur son œuvre et on avance. Et des fois, pour qu'on y arrive à ce niveau-là, à cet état-là, eh bien, il faut des épreuves que Dieu permet dans nos vies pour qu'on puisse apprendre à marcher, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'était juste cette pensée-là que je voulais apporter ce soir. C'est quelle que soit la difficulté. Peut-être qu'en face de vous, il y a une difficulté qui est immense. Vous ne savez pas comment faire, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, il y a quand même un moyen d'avancer, de vaincre. C'est de s'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsque l'on fait ça, eh bien, on devient spirituel. Et en devenant spirituel, eh bien, on devient le disciple accompli que le Seigneur veut que nous soyons. Alors, je vais juste relire ce verset, puis je vais m'arrêter parce que je ne veux pas être trop long. Mais dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet exemple de Jacob qui, bien qu'il a mal commencé, a bien fini. Mais Seigneur, il a fallu que tu produises cette épreuve afin qu'il soit brisé dans sa force et qu'il apprenne à s'appuyer sur, enfin qu'il doive s'appuyer sur le bâton. Et nous, Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui s'appuient sur leur propre force, sont charnels et causent du trouble, mais nous voulons être de ceux qui ne mettent leur confiance uniquement dans l'œuvre que tu as faite à la croix. Merci Seigneur, parce que oui, cette croix, tu l'as portée, ce combat, tu l'as mené, et tu as remporté la victoire, Seigneur. Et apprends-nous à marcher non pas en comptant sur nos forces à nous, mais à marcher en comptant sur ta victoire à toi à la croix. Merci parce que tu nous l'as donnée. Merci parce que ta victoire, elle est véritable, elle est solide. Et sur ce que tu as fait à la croix, nous pouvons nous appuyer certainement. Et nous savons que, Seigneur, celui qui croit en toi, il verra ta gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Merci, Michael.